Cette semaine, j'étais en train de... hier, ceux qui sont sur Facebook, vous avez vu, on a monté notre sapin. Le temps, on se prépare pour les fêtes, puis on a du bon temps. Puis honnêtement, j'attendais les fêtes cette année. Je pense que je l'ai dit la semaine dernière, mais j'attendais ça particulièrement. Je ne suis pas très commercial, fête, tout ça, mais je sais pas, deux semaines avant, j'étais prêt à monter le sapin. Je sais pas, je pense que c'est le temps d'être en famille. Puis cette semaine, à un moment donné, en pensant à Noël, j'ai été triste. J'étais avec une amie, puis j'ai senti dans son regard de la tristesse. Puis en jasant, ça m'a frappé, ça m'a juste rappelé à quel point, pour beaucoup de gens, le temps des fêtes, Noël, tout ça, c'est pas un moment joyeux, c'est pas un moment de joie. C'était paradoxal parce que, bien honnêtement, je suis pas là. J'ai hâte d'arriver là. Mais pour bien des gens, le temps des fêtes, ça peut être un moment de solitude. Ça peut être un moment où ça rappelle des moments tristes, des moments difficiles dans le passé, où on a perdu des proches, des choses comme ça. Et donc, ça peut être un moment de tristesse. Et donc, pendant que j'étais en train de prier, puis j'étais en train d'étudier le passage, ça m'a fait du bien, ça m'a encouragé. On est dans l'Évangile de Jean, puis l'Évangile de Jean est particulier. Les trois autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, mettent l'accent sur l'idée du royaume de Dieu, alors que l'Évangile de Jean met l'accent sur la notion de la vie, particulièrement de la vie éternelle. Jean nous dit le but de son Évangile, je l'ai dit la semaine dernière, dans Jean 20, 31, on lit « Mais ces choses ont été écrites afin dans quel but que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Et je me disais, lorsqu'on arrive à la période des fêtes, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut s'arrêter un peu, on veut juste comme... Puis prendre le temps de vivre. On a cette expression-là au Québec, prendre le temps de vivre. On a besoin, à travers la folie de l'année, de se sentir vivant aux fêtes. Juste de prendre le temps de s'arrêter, puis sentir qu'on est en vie, puis qu'on est capable d'être là pour les gens autour de nous. Et c'est ça ma prière pour vous cette année. Pour tout le monde ici dans l'Assemblée, pour ceux qui anticipent ce temps-là avec tristesse, ma prière, c'est que vous vous sentiez vivant cette année et que Noël soit pour vous une fête de la vie vraiment. Et ça prend pas ben de l'argent puis des gros cadeaux pour ça. Au contraire, ça a tendance à tuer ça peut-être même. Ça prend quoi? Ça prend simplement cette grâce de comprendre qu'est-ce que c'est Noël. Qu'est-ce que c'est l'Évangile? Pourquoi est-ce que Christ est venu? Puis ça prend quelques personnes avec qui partager ces moments-là. Et ma prière, c'est qu'en Église, comme Église, à travers cette série puis à travers les célébrations du temps des fêtes, on prenne le temps de se rappeler ce que signifie Noël. Puis qu'on puisse entrer dans les sentiments qui accompagnent cette fête-là de la vie. Et qu'on puisse le vivre avec des gens autour de nous. Des gens de l'Église qui peut-être seraient seuls, des gens autour de vous dans le quartier, des amis qui peut-être seraient seuls ou ce serait des moments tristes. Puis vous allez les aider à prendre le temps de se sentir vivant à travers les fêtes. Parce que Christ est vivant dans vos cœurs et parce que vous allez être là pour les gens autour de vous. On va prier ensemble. Mais Père éternel, on vient dans ta présence. Pour célébrer Noël, Seigneur, on est en avance. On est en avance, mais en même temps, on est en retard. Ça fait 2000 ans que cette fête-là est commencée. Ça fait 2000 ans que cette fête de la vie est commencée. On souligne la venue de cette toute petite vie dans le monde, mais qui était en réalité la source de toute vie, pour toute l'humanité. Et Seigneur, nous comme chrétiens, nous qui te connaissons, on veut entrer dans les célébrations de Noël, dans la fête de Noël, Seigneur, en se sentant bien vivant de cette vie que tu nous as donnée, Seigneur. En tournant les regards vers toi, la source de notre vie, Seigneur. Et en étant là pour les gens autour de nous qui ont besoin, qu'on prenne le temps de s'arrêter avec eux, de les accueillir, de les inviter à manger, d'aller prendre un café avec eux, de les recevoir à la maison et prendre le temps de vivre ensemble ce moment-là, Seigneur. Alors viens nous parler ce matin, viens nous faire du bien. Et ma prière va tout particulièrement, Père, pour ceux qui appréhendent le temps des fêtes, qui ont le regard triste et le cœur lourd, qui attendent juste que ce moment-là soit passé. Seigneur, viens les rencontrer ce matin à travers ta sainte parole. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter ensemble la lecture de la parole de Dieu.
Donc, le passage biblique de ce matin est tiré de l'Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 18, et ça va se faire dans l'édition seconde. Donc, Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce par grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître.
Amen. Merci, Luc. Alors, ce matin, on va voir ensemble que cette petite vie qui est née à Noël il y a 2000 ans était en fait la source de la vie. Croire en lui, c'est vivre maintenant et c'est vivre pour l'éternité. La vie, toute vie, émane de Christ, vient de Christ, tire sa source dans la personne de Jésus-Christ. Regardez ce que Jean dit au verset 4. En parlant de la parole, la semaine dernière, on a vu, c'est en grec le logos, un peu plus loin au verset 14, c'est cette parole-là, c'est faite chair, c'est Christ en réalité qui est devenu un homme, Jésus, né à Nazareth, né à Bethléem, je m'excuse. Au verset 4, « En elle, la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » En elle était la vie, ce qui veut dire que toute chose a été faite par elle. Et le contexte ici, au début de l'Évangile de Jean, parce que ça va évoluer à travers l'Évangile, d'accord? Jean utilise comme 32 ou 37 fois le mot « vie ». Il y a vraiment un accent. Puis 17 fois, c'est en parlant de la vie éternelle. Donc, ça va évoluer à travers l'Évangile. Plus Jésus va parler de la vie, plus il est en train de parler de la vie éternelle. Puis on va voir une vie qui commence maintenant et jusque dans l'éternité. Mais lorsqu'on est au début de son Évangile, le contexte, c'est quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle et rien n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. On est dans Genèse 1. Et la vie dont il est question ici, c'est la vie. C'est la vie, toute forme de vie tire son origine dans la personne de Christ. Souvent, on a de l'air très prétentieux, les chrétiens, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, puis on parle du fait qu'il est unique. Mais il est unique. On peut pas le comparer avec des religions ou avec des grands prophètes sur la terre. Dans Jean 5, 24, le Seigneur dit, « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » C'était scandaleux pour les Juifs d'entendre Jésus parler de sa relation avec Dieu, d'en parler comme étant son Père, mais éventuellement, pas juste d'en parler comme une relation très, très intime, qu'aucun homme s'était attribué avant, d'accord? Il y a une distance entre Dieu et toi. cette distance-là, c'est la perfection, l'infinitude de Dieu, le fait qu'on est des êtres limités, on naît, on meurt, de plein de manières, on est autre, d'accord? Puis Jésus vient, puis il parle de sa relation avec Dieu en parlant toujours de son papa. De son papa, puis lui et son père, moi puis mon père, moi puis mon père, moi puis mon père. Puis là, il dit ici, comme le Père a la vie, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et donc, l'autre élément qui de plus en plus scandalise les docteurs de la loi, les Juifs, c'est que Jésus est non seulement en train de dire qu'il est près de Dieu, mais qu'il porte en lui-même les qualités divines, qu'il a lui-même des qualités qui sont uniques à Dieu. Je veux dire, Jésus aurait dit, quelqu'un vient vous voir, puis il dit, quelqu'un qui est croyant, puis vous êtes un peu croyant, vous avez une conception quelconque de Dieu, puis la personne vient vous voir, puis elle vous dit, Dieu est la vie. Ça peut aller, si Dieu existe, que Dieu soit la vie, ça, it makes sense, tu sais, ça peut se tenir jusque-là. Maintenant, quelqu'un vient te voir, puis il dit, Dieu et moi, on est la vie. On a la vie. On donne la vie. T'es ailleurs, là. T'es complètement ailleurs. Et c'est ça que Jean est en train de nous dire sur la personne de Christ, sur la personne de Jésus-Christ. Et si vous voulez fêter Noël cette année, puis saisir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on est en train de commémorer à Noël, vous devez saisir cet aspect absolument unique de la personne de Christ. Jean 5, 26, « Car comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Christ est donc l'auteur de la vie. Rien n'a été fait sans elle. Tout ce qui existe, tout ce qui est vivant, vient de lui. Dans Genèse, lorsque Dieu crée l'être humain d'une manière mystérieuse qu'on ne comprend pas vraiment, il nous expliquera ça un jour peut-être. Dans Genèse 2:7, on lit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Les êtres qui vivent dans l'univers vivent parce que Dieu leur donne la vie et Dieu soutient leur vie. Et quand Dieu va décider qu'il arrête de soutenir ta vie va s'arrêter. Mais d'une manière particulière, lorsque Dieu crée l'être humain, il le crée à son image. L'être humain est différent de tous les êtres sur la terre, tous les êtres vivants sur la terre. Parce que lui seul a été créé à l'image de Dieu. Les différences sont évidentes. Tout le monde voit que dans tout le monde animalier, dans toutes les races, l'être humain est unique. C'est pas un simple animal. Il a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu nous dit dans Genèse 2 que Dieu lui a donné un souffle de vie. Et donc, ça veut dire que tous les êtres humains que tu croises, prenez un instant, là, juste 2 secondes, regardez les gens autour de vous. Prenez le temps de regarder le monde autour de vous, même les faces que vous ne connaissez pas. Là. Regardez le monde autour de vous. Tu peux regarder Bruno par là. Toutes ces personnes-là portent en elles-mêmes, d'une manière mystérieuse que la science ne peut pas expliquer encore, mais cette vie que Dieu a donnée. Quand je croise une personne, même lorsque je croise même un animal, cette vie-là, à quelque part, émane de Christ lui-même. Alors, c'est sûr que lorsqu'on essaie de comparer Jésus avec des religions ou avec des grands prophètes ou avec des grands sages, les chrétiens ne se tournent pas vers Jésus-Christ comme vers un guide simplement, mais comme celui qui est la source de notre vie. C'est lui qui a créé la vie, c'est lui qui va donner la vie éternelle, on va le voir dans un instant, mais ce n'est pas de la vie éternelle que je parle. Je parle du fait que tu respires maintenant. Ça, c'est Christ qui te l'a donné. Et donc, lorsque les chrétiens adorent leur Sauveur, ils adorent leur Créateur, mais pas simplement celui qui a imaginé l'univers, qui l'a conçu, puis qui l'a organisé, puis qui s'est dit « Ouais, on va faire ça comme ça ». C'est plus que ça. C'est de lui, à l'intérieur de lui-même. Vient pas simplement l'idée de l'univers, mais le souffle de vie, la vie elle-même, vient de Christ. Si c'est vrai tout ça, à partir du moment où l'humanité décide de dire à Dieu, là, je suis encore dans la Genèse, l'être humain décide de dire à Dieu, regarde, j'ai pas besoin de toi, tu m'as donné la vie maintenant, je suis un grand garçon, j'ai plus besoin de toi, je me détache de toi. si Dieu est la vie, si Christ est la vie, c'est là qu'est toute la vie. Puis que moi, je décide de m'en aller par là-bas, je m'en vais où? Je coupe le pont, je détache le pont. Je m'en vais vers la mort. La vie est là, je m'en vais vers la mort. Cette semaine, on a un jeune homme qui est arrivé à l'église, à la maison, puis il est arrivé avec une rose rouge. Maintenant, juste préciser, c'était un ami de mon neveu. Il apportait pas une rose pour quelqu'un à la maison, d'accord? Juste pour pas partir des rumeurs. Il est arrivé avec une rose rouge à la maison, et puis il venait coucher chez nous, puis il voulait apporter ça, puis bon, il pensait bien faire, il voulait apporter ça à quelqu'un d'autre le lendemain. Fait que là, le soir, finalement, il décide qu'il couche à la maison, puis là, il dit, avoir l'air de quoi ma rose demain, tu sais? Fait que on a fait tout ce qu'on pouvait pour qu'elle se tienne encore debout le lendemain, tu sais? Puis qu'elle ait un petit peu d'allure. Mais sa question, c'était quoi? C'est parce que ma rose, là, est coupée. De la source qui lui donne la vie. Ton temps est compté. Son temps est compté. Quelques jours, elle va être morte. Elle est déjà en train de mourir. Si Dieu est l'auteur de la vie, si Christ est l'auteur de la vie, si toute forme de vie émane de Christ et que moi je décide de vivre sans lui, je coupe la source. Je m'en vais où? Je m'en vais où? C'est important de garder ça à l'esprit parce que vous allez voir que ça devient pratique après à tous les jours. Ça devient concret pour ceux qui sont chrétiens comme pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Ça devient extrêmement concret. Posez-vous la question tout au long de l'exposé ce matin. Est-ce que vous courez vers la source de la vie ou est-ce que vous décidez de chercher une autre vie ailleurs? Une autre vie à l'extérieur de celui de qui émane toute vie. Il y a un non-sens profond. Si les Écritures disent vrai, il y a un non-sens énorme dans cette démarche-là. Ça ne tient pas la route. On lit dans le psaume 36, versets 8 à 10. « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. » C'est un super beau psaume. Il se rassasie de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'homme court comme ça vers Dieu puis trouve tellement de bonheur dans la présence de Dieu? Le psalmiste nous dit, « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Christ n'est pas comparable à qui que ce soit. C'est lui la source de la vie. Maintenant, souvent, je parle avec des chrétiens, puis ils me disent, « Yannick, je ne vis pas cette vie abondante que Christ nous avait promise. Je ne vis pas cette vie pleine-là, je ne vis pas cette joie, ce repos, je n'arrive pas à vivre ces choses-là. » Peut-être que la question c'est, est-ce que tu cherches cette abondance, cette paix, ce repos, cette joie, est-ce que tu la cherches ailleurs? Tu es dans une course effrénée où tu dis, la carrière va me donner ça, ou l'amour va me donner ça, puis tu es en train de chercher ailleurs, je vais fonder une famille, puis je vais me sentir vivant parce que j'ai une famille. Je vais aller dans la nature, c'est ça qui me branche, je vais me sentir vivant lorsque je vais être dans la nature. Je vais faire du sport, je vais prendre soin de ma santé, j'ai besoin de me sentir vivant. Ou encore, la vie est trop rapide puis je prends pas le temps de vivre. Ça me prend ma bière le soir pour juste décompresser puis sentir que je suis encore en vie à travers toute la journée. Puis honnêtement, toutes ces choses-là ont rien de mauvais en soi. Laissez-moi l'illustrer comme ceci. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un palais des glaces, dans un palais des miroirs. Qui est déjà allé dans un palais des miroirs, dans une ronde ou quelque chose comme ça, puis il y a juste des miroirs partout. Quelques personnes qui ont vécu ça. C'est vraiment particulier comme expérience, mais vous avez tous vu ça à la télé une fois ou l'autre. C'est juste des miroirs partout. Mais laissez-moi l'illustrer ainsi. Si Christ est la source de la vie, puis que je passe ma vie à courir partout après la vie, je veux me sentir vivant en faisant du sport, je veux me sentir vivant en étant avec mes amis, je veux me sentir vivant en écoutant toujours de la musique, parce que lorsque j'arrête ça, c'est comme le vide intérieur, il n'y a plus de vie en moi, c'est juste le malaise de vivre. Je veux me sentir vivant à travers toutes ces poursuites-là. C'est un peu comme si tu étais dans un palais des glaces, dans un palais des miroirs, puis que tu regardais les reflets partout, puis tu cherchais la vie, alors que Christ se tient à côté de toi. Puis dans toutes les glaces, tu vas te voir toi-même, puis tu vas voir un reflet de Christ. Toutes ces poursuites-là que tu as sont tous des reflets. C'est vrai. C'est vrai, c'est bon. Dieu nous a créés avec un corps. Dieu, les relations, à travers les relations, je trouve un reflet de la personne de Dieu, de l'amour de Dieu. À travers les choses que je crée, on a fait une série sur le travail. J'ai un travail, je suis en train de bâtir. Yannick, moi, je suis un créatif, je construis, je collabore. Tu nous as dit qu'il fallait entretenir la terre. C'est ça que les Écritures nous disent. C'est ça que je suis en train de faire, puis je m'accomplis là-dedans, puis je me réalise là-dedans. Oui, mais à un certain moment donné, si Dieu te fait grâce, tu vas réaliser que c'est juste un reflet de la source de la vie qui est Jésus-Christ. Et il n'est pas loin, il se tient tout près de toi. Et il veut entrer. Il veut être là, il veut être au centre. Si tu le connais, si tu es chrétien, tu sais où aller. Mais tu es en train de poursuivre des reflets seulement de cette vie-là. Puis tu vas te taper le nez dans la vitre. Puis tu vas être déçu. Alors que tu as juste besoin d'arrêter de courir dans toutes les directions, d'arrêter. Ouvrir les Écritures, de retourner vers Christ qui est la source de la vie, puis connecter. Dans la prière, dans la lecture avec des frères et sœurs, retrouver le sens de Noël. Deuxièmement, il y a des gens qui sont extraordinairement riches sur la terre. Ça devient aberrant. Il y a des chiffres qui, quand tu prends le temps de les regarder, puis tu dis, c'est quelque chose. Puis il y a des gens qui, je veux dire, ils ont travaillé comme des fous pour arriver là. C'est pas tous des dictateurs là, qui ont fait ça. Là. Il y a des gens qui sont extraordinairement riches sur la terre. C'est comme une espèce d'aberration, parce que tu dis, ouais, mais ils ont le salaire de la vie d'un individu 600 fois ou 2000 fois ou 3000 fois que tu peux faire à travers toute une vie et plus encore. Là, tu te dis, peut-être si j'étais comme son meilleur ami, tu sais, peut-être je ne réussirais pas à être riche comme lui, mais si j'étais son meilleur ami, sûrement que ça éclabousserait un peu, tu sais. On recevrait une petite goutte de temps en temps. Maintenant, imaginez que quelqu'un se retrouve là. Il vaut 50, 60 milliards de dollars. Puis il décide tout d'un coup qu'il veut aider plein d'amis autour de lui. Il va pouvoir faire un bout, hein? Mais à un certain moment donné, là, si vous faites le calcul, ce qu'un être humain en Occident va gagner dans une vie avec un salaire moyen, vous allez réaliser qu'assez rapidement, quand même, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus rien à partager. Parce que c'est juste un être humain. C'est juste un des reflets de celui qui a la vie. Et lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, rappelez-vous, c'est celui qui a la vie, celui de qui émane la vie. Lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu avec un but précis. C'était de donner la vie. Et la beauté avec Christ, c'est que son compte en banque ne sera jamais vide. C'est pas qu'il imprime les billets. C'est qu'il est lui-même la vie. Et lorsqu'il se donne, il donne la vie. Et il est venu spécifiquement sur la terre pour donner la vie. C'est ça qu'on fête à Noël. Le fait que Christ est venu sur la terre pour donner la vie. Jean 5, 21. On est toujours dans l'évangile de Jean, puis Jean développe son thème sur la vie. Jean 5, 21. « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Comprenez que les Juifs qui ne croyaient pas dans la divinité de Christ ne voyaient pas ça venir du tout, ils ne l'avaient pas vu dans les prophéties, alors que c'était là, c'était présent, ils étaient scandalisés, les docteurs de la loi ne comprenaient pas. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Un jour, Jésus va visiter des amis, Marthe et Marie, qui avaient un frère, il n'y a pas si longtemps, Lazare, vous connaissez l'histoire probablement, et Lazare décède. C'était des amis intimes, c'était des amis de Jésus. D'accord? Et donc, Jésus arrive, puis il arrive en plus de ça en retard pour la funéraille. Mais Jésus arrive, et Jésus a déjà un ministère public à l'époque, donc il guérit des malades. Il, tu sais, Il fait des miracles à tour de bras. Alors, lorsqu'il arrive là, évidemment, Marthe s'en va le voir, puis elle dit, « Mais t'étais où? C'est quoi la joke? La seule fois où ça aurait été vraiment important que tu sois ici, t'es comme juste pas là. Si t'avais été ici, Lazare, mon frère, ton ami serait pas mort. Tu l'aurais touché, puis bam, il aurait été guéri. » Puis là, il y a une conversation entre Marthe et Jésus. Vraiment intéressant. Je vous lis le contexte, puis vous allez avoir quelques versets qui vont être affichés, mais je vais vous lire un peu plus largement dans Jean 11, verset 21. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Tu l'aurais guéri, man. C'était Jésus. T'étais où? « Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Il y a encore un reproche, hein, là, dans le « mais maintenant même » en français, c'est comme « ah, mais t'es grand. » Il y a encore un reproche. Écoutez la suite de la conversation. Il y a encore un reproche. « Si tu avais été ici, tu l'aurais accordé. Tu l'aurais guéri. » Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera. » Puis elle ne l'entend pas, bien, pas de problème. Moi, je suis toujours on time. Il n'y a pas de trouble. On va faire ça là tout de suite. T'sais. C'est juste que ça va être plus glorieux. Elle, ce qu'elle entend, c'est une pointe d'ironie. Mon frère est mort, mais au jour de la résurrection, il va ressusciter comme tous ceux qui ont cru. C'est ça qu'elle entend. Inquiète-toi pas, tu vas le revoir un jour. Belle parole de consolation. Vous essayerez ça dans un salon funéraire? C'est bon de se taire des fois, là. C'est vraiment bon de se la fermer. Mais c'est Jésus, fait que je pense qu'il sait ce qu'il fait. « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Et ce jour-là, parce que Jésus devait manifester hors de tout doute qu'il est la source de la vie, qui est la résurrection et la vie, Jésus ressuscita son ami Lazare. D'une manière exceptionnelle, Jésus ne se promenait pas dans les cimetières à sortir tout le monde tout le temps. Chacun des miracles que Jésus fait sont là pour révéler qui il est, sa personne. Et ce que Jésus est en train de manifester à Marthe et à Marie et à tous les témoins qui étaient là ce jour-là, c'est qu'il est la résurrection et la vie, et que celui qui croit en lui vivra pour l'éternité, mais que celui qui croit en lui aussi ne mourra pas. Parce que pour le chrétien, lorsque mon corps meurt, j'ai l'absolue certitude que je fais simplement une transition. Et j'ai la certitude que si je suis encore vivant au jour du retour de Christ, je vais simplement entrer dans la gloire sans même faire face à la mort. Parce que Christ est la résurrection et la vie. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Tout ce que tu as besoin pour avoir cette vie-là, c'est de croire en Jésus. C'est pas facile de croire en Jésus, puis c'est un peu plus difficile de croire en Jésus lorsque tu vis à une époque où le message constant, c'est « crois en toi-même ». Voyez-vous, dans l'histoire de l'humanité, les êtres humains se sont créés des dieux, se sont inventés des idoles, ils ont forgé des dieux à leur image, un dieu de la nature ou de la température pour s'assurer que le maïs pousse bien, un dieu de la forêt pour que les animaux viennent puis que j'ai ma viande à manger, un dieu de la fertilité pour être certain qu'on puisse avoir des enfants. Et selon ses désirs, selon ses besoins, l'être humain s'est forgé des dieux. Et aujourd'hui on a la connaissance, on n'est pas des ignorants, on a dépassé ça. On vit plus à l'époque de la foi, on vit à l'époque de la science. À l'époque de la science, et pourtant le message qu'on entend le plus souvent, c'est « aie foi en toi ». Intéressant, hein? C'est pas de la science, ça. C'est aie foi en toi, crois en toi-même. Ça ressemble à une croyance, tant qu'à moi. Crois en toi-même. Ce n'est pas scientifiquement démontré que tu es un king. Tu sais, quand ils disent « crois en toi-même, tu vas réussir », « crois dans ta destinée ». Il n'y a rien de scientifique là-dedans. Peut-être que tu vas sortir de chez vous, tu vas traverser la rue, bam! Voilà, tu croyais dans ta destinée, ça vient de finir. C'est pas scientifique, c'est de la foi. On a juste déplacé la foi de Dieu ou de nos idoles vers nous comme idoles. C'est juste ça. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir une très mauvaise image de soi, il faut penser qu'on est juste des losers, on ne peut rien faire. J'ai été créé à l'image de Dieu. David dit « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. » Donc, j'ai des talents, j'ai des capacités. Puis si tu as une super mauvaise image de toi et tu crois dans un paquet de mensonges, les Écritures sont là pour faire le ménage entre le mensonge et la vérité. Mais de croire que ta destinée est entre tes mains et que tu as juste à croire en toi-même, c'est lourd porté, ça. C'est lourd à porter, cette affaire-là. Et Jésus nous dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra point. » Et tout ce qui t'est demandé de faire, c'est d'enlever Jésus de la tablette où est-ce que tu l'as mis avec toutes les divinités, tous les prophètes, toutes les peut-être sages ou peut-être pas, ou encore la tablette des mythes. Parce que dans ton petit hôtel, dans ta maison, chez toi, ce qui est adoré, c'est toi. Un reflet, un pâle reflet de la source de vie qui est Jésus-Christ. Et Christ dit, débarque-moi tout ça, mon ami, crois en moi, parce que je suis la résurrection et la vie. Viens et crois en moi, tout simplement. Et Jésus te promet que la vie éternelle t'est assurée. Je sais que c'est difficile à croire, mais I bet qu'il y a des journées que c'est difficile de croire en toi. Je peux t'assurer que croire en Jésus-Christ, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus safe. C'est beaucoup plus solide. Et je t'invite à faire ça pendant les fêtes, à prendre ce moment-là pour considérer sérieusement la personne de Christ et peut-être faire le choix de t'offrir le plus beau cadeau de Noël que tu pourras jamais avoir. Personnellement, je me suis converti dans la période des fêtes. J'étais en train de fêter en famille et c'est là que je me suis converti. Dieu m'a donné le plus beau cadeau que c'était possible d'avoir. Je savais que j'avais la vie. Ça s'est passé après un échange de cadeaux. J'ai dit, « OK, c'est fini, Seigneur. C'est en toi que je crois. Je ne crois plus en moi. Je ne crois pas dans les hommes autour de moi. C'est en toi que je crois. » Et j'ai eu l'assurance de la vie éternelle. Maintenant, Jésus dit, « Celui qui croit en moi ne mourra point. » Un des éléments à travers l'Évangile de Jean, puis pour les chrétiens, c'est la chose la plus difficile à croire au monde. Un des éléments dans l'Évangile de Jean, c'est que la vie éternelle commence maintenant. Celui qui croit en Jésus-Christ ne mourra point, c'est-à-dire que la vie commence déjà maintenant. Celui qui croit en Jésus-Christ, les Écritures nous disent que Dieu lui donne son esprit, l'esprit de Christ, qui est l'esprit de vie, qui vient vivre en nous. Cette vie éternelle-là n'est pas pour après la mort. Il y a quelque chose de différent après la mort. Les combats vont arrêter. Ma nature pécheresse va être complètement annihilée. Il n'y aura plus de chute dans le péché. Je vais être libéré d'un monde de pécheurs aussi, où c'est difficile par moments d'évoluer. Donc, ça va être différent. Mais moi, je suis déjà entré dans la vie éternelle. Cette vie-là est déjà présente en moi. Elle est déjà commencée, cette vie-là. Et cette vie éternelle, Jésus nous dit dans Jean 17,3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et donc, connaître la personne de Christ, au moment où je le connais, ce n'est pas que j'ai mon ticket pour le ciel. Au moment où je le connais, j'entre dans cette vie-là. Quand je fais la connaissance personnelle, réelle de la personne de Christ, pas un des conseillers, pas un des philosophes, pas un des mythes, pas une des religions, celui de qui vient la vie. Une fois que je fais sa connaissance, je réalise qui il est, ce qu'il a fait en mourant sur la croix pour moi. J'entre à ce moment-là dans la vie parce que je me reconnecte avec la source de ma vie. Et la vie que Jésus donne maintenant apporte la paix, la joie, l'amour dans le cœur, la bonté, le calme, l'espoir dans les moments difficiles. Elle nous aide à saisir à quoi nous servons ici-bas. Ma vie sert à quoi, cette vie-là? Sert à manifester la vie de Christ. Toutes ces questions-là, pourquoi je suis sur la terre, où je m'en vais, je sers à quoi? Ma vie est poche aujourd'hui. Toutes ces choses-là trouvent leur réponse dans la personne de Christ. Et cette nouvelle vie-là commence en moi maintenant. Et pourtant, comme je le disais tout à l'heure, bien souvent, les chrétiens me disent qu'ils ne vivent pas cela. Ou seulement des petits moments, des petits bouts. Ils se sentent en vie. Mais ça ne ressemble pas à ça en général, leur vie. Je pense qu'une fois qu'on a cru que Jésus donne la vie éternelle, la deuxième chose la plus difficile à croire, c'est que Jésus la donne maintenant. Maintenant, right now. Je suis déjà en vie, 100%. Je suis déjà entré dans cette vie-là. Et je crois qu'une des clés, c'est de réaliser que pour que Christ nous donne la vie, il a fallu qu'il meure. Ce qui rend le plus facile de croire en Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait, il est allé mourir sur la croix. Ce qui rend crédible son message comparativement à tout ce que vous allez trouver n'importe où, dans n'importe quelle philosophie, c'est que lui est allé mourir sur la croix pour nous, volontairement, il s'est offert en sacrifice. Mais la clé est là pour nous aussi. Pour que Christ puisse nous donner la vie, il a fallu qu'il donne sa vie à lui et qu'il meure. Pour que tu puisses jouir maintenant de cette vie-là, avant de mourir physiquement, mais déjà vivre cette vie de résurrection-là, tu vas devoir te charger de ta croix, renoncer à toi-même pour le suivre. Tu vas devoir faire comme Christ, mourir. On lit dans Luc 9, verset 23. C'est Jésus qui parle et dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Si tu connais Jésus, il y a des domaines que Christ est en train d'adresser dans ta vie. Il y a des domaines où Christ te demande de le suivre, de renoncer à toi-même, puis de dire, « Ça ne me tente pas d'aller là, Seigneur. » Mais c'est ça, fais la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémané. Jésus a fait cette prière-là. Ça ne me tente pas de faire ça, Père. Il y avait un conflit entre la volonté de Dieu, le Père, et la volonté du Fils. Il a été exactement à cet endroit-là. Ça me tente, tout en moi me dit que c'est juste de la souffrance qu'il y a là devant moi. Mais si tu as l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu t'a montré quel est le passage où tu dois aller pour suivre Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, maintenant, suivre Jésus? Tout à l'heure, on avait des personnes qui sont venues nous partager, ils partent en mission. Mais du 4 au 14 janvier, à moins que Dieu les informe que leur projet de voyage vient de changer, ils savent c'est quoi pour eux suivre Jésus. Lorsqu'ils vont arriver là-bas, laissez-moi vous dire qu'ils vont avoir des surprises, parce qu'ils pensent qu'ils savent c'est quoi suivre Jésus. Là-bas, ils vont découvrir c'est quoi suivre Jésus. Ça ne sera pas toujours cool. Et donc, si l'Esprit de Dieu est en vous, vous savez, vous le savez. Si vous ne le savez pas, demandez à votre femme. Elle sait. Demandez à vos proches. Commencez à prier. Puis dites, Seigneur, c'est quoi les passages où je refuse de te suivre? Je ne veux pas aller là. Pourquoi est-ce que vous devez faire ça? C'est parce que la vie abondante que Christ promet, elle se trouve de l'autre côté de ça. Elle se trouve de l'autre côté de cette croix-là que tu as apportée. Et si tu refuses d'aller là, tu vas faire partie du lot des chrétiens qui disent « Je sais pas, tu sais, des fois je sens comme je suis reconnecté, tu sais, oh, j'ai un petit buzz, j'ai rien d'être reconnecté sur Jésus ma vie. Plus tard, là, ça va être comme full-fledged, man, tout le temps 220. » Mais de temps en temps dans ma vie chrétienne, hop, j'ai un petit coup de vie, là. Hey, j'ai parlé de Jésus aujourd'hui. Ah, je me sens joyeux. Hey, j'ai chanté des louanges, puis j'ai eu une larme aujourd'hui. Puis là, je le vis à ce moment-là. Je ne connais pas ton histoire, je ne sais pas c'est quoi. Puis peut-être que je suis à côté de la plaque, peut-être que tu es en train de le suivre parfaitement, mais tu es au milieu de l'épreuve. Puis à travers ça, il y a des larmes, il n'y a pas juste de la joie et de l'abondance, il y a de la souffrance. Puis tu es fidèle, puis tu es là, persévère, persiste. Tu es à l'endroit où à travers la souffrance, on se sent vivant. Tu es à l'endroit où les chrétiens souffrent, puis pourtant, d'une manière inexplicable, pour quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il y a une joie qui est comme à travers la tristesse, parce que je sais que je suis là où Dieu veut que je sois, puis je suis en train de découvrir la grâce, puis l'amour de Christ, puis je suis en train de réaliser qu'est-ce qu'il a vécu à la croix pour moi, je suis en train de découvrir combien Dieu aime les hommes, puis combien c'est difficile d'aimer les êtres humains, puis de persévérer. Tu es au bon endroit, continue. Je suis pas en train de dire que la vie chrétienne, c'est toujours « hop la joie ». C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais si ta vie chrétienne est caractérisée par une absence de ce flot-là de vie en toi, probablement que si on s'assoyait ensemble une demi-heure, on pourrait identifier des passages que Christ t'invite à prendre, te charger de ta croix, renoncer à toi-même et le suivre. Et où tu es là, puis la croix est là. La vie est de l'autre côté. Prends-la, appuie-toi sur la grâce de Christ. La vie est de l'autre côté. Pour que Christ te donne sa vie, il a fallu qu'il renonce à la sienne. Pour que tu goûtes pleinement sa vie, tu vas devoir renoncer à la tienne. Et t'appuyer sur sa grâce. Juste y aller par la foi. Puis dire, Seigneur, on va faire ça un pas à la fois. On va marcher par la foi. Tu veux que j'aille là? Tu veux que j'aille vers telle personne pour me réconcilier? Tu veux que je m'investisse dans ma vie de prière? Tu veux que je renonce à tel emploi parce que s'il y a des trucs qui sont pas legit dans ce job-là? Tu veux que je renonce à tel péché, Seigneur? J'ai une dépendance envers ça. Tu veux que j'aille le confesser à quelqu'un, que j'aille chercher de l'aide, j'aille chercher des ressources autour de moi? Je sais pas, name it, c'est vous qui savez c'est quoi. La vie abondante est de l'autre côté de ça. Prends-la ta croix. Ça va être ton plus beau cadeau que tu vas te faire à Noël. Prendre ta croix, renoncer à toi-même, puis suivre Jésus par la foi, tout simplement. Juste marcher à la suite de Christ. Alors, qu'est-ce qu'on fête à Noël? Qu'est-ce qu'on fête à Noël en terminant? Christ est la source même de la vie. Il est né à Noël dans une toute petite vie, d'une manière absolument mystérieuse, celui qui est la source de la vie depuis la création du monde, la source de toutes les vies humaines qu'il y a ici. Cette vie-là s'est incarnée en se faisant homme et devenu homme. Une toute petite vie à Noël. Et dans ce petit enfant-là, qui a grandi puis qui a enseigné la gloire de Dieu, qui a enseigné le royaume de Dieu, qui a manifesté qui est Dieu, les disciples ont vu la gloire de Dieu. En le côtoyant, ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas en présence d'un autre prophète, d'un autre enseignant, d'un sage. Ils n'étaient pas en présence d'un ange. Ils étaient en présence de celui dont la gloire est unique, celle du Fils unique venu du Père. Et je veux terminer sur ça. Pour les chrétiens, célébrer Noël, lorsqu'on comprend bien ce que c'est célébrer le fait que nous avons vu la gloire de Dieu. Voyez-vous, dans le passage, dans Jean 1, 14, lorsque Jean dit « et nous avons vu sa gloire », la gloire comme la gloire du Fils unique, on l'a vu pleine de grâce et de vérité. Il y a une allusion qui est faite dans ce passage-là au livre d'Exode. Dans le livre d'Exode, pour la première fois, Dieu va se manifester au peuple d'Israël et Moïse va expérimenter la présence, la gloire de Dieu comme aucun être humain l'a vécu jusqu'à présent depuis la création, alors que la communion est absolument parfaite. On lit dans Exode 24, versets 16 à 18, « La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. » Puis un peu plus tard, Moïse va dire à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » Et Dieu va lui dire, « Je ne peux pas te montrer mon visage parce que tu en mourrais, mais je vais te montrer ma gloire. Je vais te couvrir, puis je vais passer, puis tu vas voir. Tu vas être exposé à cette gloire-là. » Quand Jean dit dans Jean 1,14, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous », il y a deux choses. Hein? La parole a été faite chair, elle s'est incarnée, mais elle a habité parmi nous. Le mot grec qu'il y a là pour « habiter », c'est le même mot grec. Là, ça prend un petit peu de connaissance de l'Ancien Testament, mais c'est le même mot grec que je trouve dans la version grecque de l'Ancien Testament qui était super commune à l'époque de Jésus. D'accord? On l'appelait la Septante. Lorsque Dieu fait construire le sanctuaire, le tabernacle, la maison, c'est une habitation. C'est le même mot grec qu'il y a ici. Et donc, lorsque Dieu se choisit un peuple dans l'Ancien Testament, puis il dit « Je vais venir habiter au milieu de vous. Vous allez me construire un sanctuaire et je vais habiter au milieu de vous. » Jean nous dit « Nous, on a vu Dieu venir habiter au milieu des hommes. Dieu s'est fait chair, la gloire du Fils unique de Dieu. Nous l'avons vu de nos yeux, on l'a vu faire les miracles, on l'a entendu enseigner avec une sagesse divine, on l'a vu pardonner les péchés, on l'a vu mourir sur la croix, on l'a vu ressusciter d'entre les morts. Nous avons vu la gloire de Dieu manifestée devant nous, comme le peuple de l'Ancien Testament ne pouvait pas le voir. Ce n'était pas possible parce que Dieu ne s'était pas encore incarné, il n'était pas venu habiter parmi les hommes. Et c'est pour ça qu'au jour de la mort de Jésus, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, parce que la gloire de Dieu pouvait librement circuler. Christ était venu et maintenant nous avons accès auprès de lui. Lorsque je saisis qui est Jésus-Christ, je réalise qu'il est la cause même, qui est la source de la vie, qui est celui de qui toute vie émane. Et que je comprends que cette vie-là, celui qui est notre Créateur, est venu s'incarner à Noël, il y a 2000 ans, ou à peu près. Il est né comme un être humain, il était vraiment un être humain. Mais progressivement, à travers toutes les prophéties qui se réalisaient, puis les miracles, tout ce qui était en train de se produire là, les hommes ont découvert, ceux qui ont pu le voir, ils ont découvert que c'était Dieu fait homme. Et les chrétiens, c'est ça qu'on fête à Noël. On fête le jour où nos yeux se sont ouverts, notre cœur s'est ouvert, et tout à coup, l'histoire de Noël, l'histoire d'un Dieu sauveur qui aurait peut-être fait des grandes choses, s'est complètement transformé. Parce qu'un moment dans notre histoire, des fois c'est limpide, c'est lucide. Je peux vous donner la date de ma conversion comme un moment incroyable. En un instant, j'ai été transformé. Pour d'autres, ça se passe sur des semaines, sur des mois. Pour d'autres, ça se passe dans l'enfance. Tout n'est pas clair sur ça. Mais ce qu'on fête à Noël, c'est cette grâce extraordinaire d'avoir vu les yeux de notre cœur, notre intelligence s'ouvrir pour réaliser que Jésus-Christ n'est pas simplement un prophète. Jésus-Christ n'est pas un mythe. Ce n'est pas une histoire, un conte pour enfants avec le petit Jésus gouli-gouli. C'est la source de la vie. C'est l'auteur de la vie. C'est notre Créateur qui est venu sur la terre. Il est venu sur la terre pour te donner la vie, pour me donner la vie. Et à celui qui croit, il donne de ne jamais mourir, d'entrer dans la vie éternelle dès maintenant. Il est venu nous donner une vie abondante. Et à celui qui croit en lui, celui qui décide de le suivre, qui renonce à sa vie, se change de sa croix chaque fois que Christ met un passage difficile devant nous. Je prends ma croix, je renonce à moi-même, je décide de le suivre. Parce que j'ai choisi non pas de croire en moi-même, mais de croire en Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on fête à Noël. Ma prière pour vous, c'est qu'à travers la série, nos yeux viennent s'ouvrir, puis qu'on fête Noël comme on ne l'a jamais fêté dans notre vie. Que certains d'entre vous, vous fêtiez pour la première fois Noël avec cette vie nouvelle en vous. D'autres d'entre vous qui retenez captive cette vie-là que Christ vous a donnée parce que vous refusez ces passages obligés. Que cette année à Noël, ce soit un moment glorieux où par la foi, avec larmes, avec crainte, avec tremblement, vous dites « Seigneur, je te suis maintenant, j'ai fini de me battre avec toi. Je connais ces passages que tu veux que j'emprunte. Noël, pour moi, ça va être ça. » Et c'est ça qu'on va chanter ensemble lorsqu'on se réunit. C'est ça qu'on va célébrer ensemble. Les gens ont besoin de se sentir vivants à Noël. Puis la vie est folle, puis on n'a pas vraiment le temps de vivre. On veut prendre le temps de s'arrêter pour vivre à Noël. Avec les amis, avec les proches, avec des gens qu'on invite de l'Église, des étrangers même qu'on invite chez nous, parce qu'on veut qu'eux autres aussi se sentent vivants à Noël. Et nous avons connu celui qui est l'auteur de la vie, celui qui nous a donné sa vie. On a toutes les raisons de célébrer cette année à Noël, celui qui est venu s'incarner sur la terre. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je veux t'adorer parce que tu es mon Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint, tu es mon Dieu. Et Seigneur, j'ai vu ta gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. J'ai vu ta gloire au jour où j'ai cru en toi, au jour où tu as ouvert les yeux de mon cœur et j'ai saisi que tu n'étais pas un mythe, que tu n'étais pas la foi de ma mère, que tu n'étais pas un prophète parmi les prophètes, que tu n'étais pas un sage parmi les sages, mais que tu es Dieu le Fils fait homme, celui qui, au jour de la création du monde, donna la vie. Et celui qui, il y a 2000 ans, est venu sur la terre pour donner la vie et la vie en abondance, la vie éternelle et la vie en abondance maintenant, Seigneur. Et c'est ça que nous voulons célébrer en Église. L'homme qui est venu s'incarner et souffrir pour nous afin que nous ayons cette vie nouvelle en nous, Seigneur. Sois béni, Seigneur Jésus. Reçois nos louanges ce matin. Entends nos louanges, Seigneur. Vois nos cœurs qui trouvent leur joie en toi. Seigneur, nous voulons renoncer à poursuivre des reflets de ta gloire et de ta vie pour te poursuivre, toi. Nous voulons prendre le temps de nous arrêter dans la période des fêtes, Seigneur, pour célébrer la vie que tu as apportée, Seigneur. Parce que tu es Dieu, Dieu fait homme, mort sur la croix pour nos péchés, ressuscité d'entre les morts, afin que nous ayons la vie. Amen.